Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, Christophe Prudhomme, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et directeur de la plateforme Semosis, qui permet la collaboration entre les mathématiques et les entreprises. On peut dire que sa vie est bien remplie, et c'est pour cela qu'il nous expliquera comment il fait pour concilier toutes ses activités. Dans cet épisode, nous évoquerons également ses diverses expériences à l'étranger. En effet, il a eu l'opportunité de passer plusieurs années au MIT aux États-Unis et à l'EPFL en Suisse. Il nous parlera plus précisément des différences en termes de vie professionnelle et d'enseignement à l'étranger. Mon invité s'est montré très bavard, cet épisode est donc plus long que les précédents. J'espère que cette discussion vous plaira, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et les prochains invités et suggérer les questions que vous souhaiteriez leur poser. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Christophe Prudhomme. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Prudhomme et bienvenue sur le podcast. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez.
Bonjour Lorraine, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, dans le laboratoire de mathématiques, l'IRMA, l'Institut de recherche mathématiques avancées. J'ai été recruté en 2012 dans ce laboratoire. Auparavant, j'étais professeur à Grenoble et je suis prof depuis 2006. Donc j'ai une carrière de mathématicien, j'ai fait des études en mathématiques à Paris, d'abord région parisienne et puis après à Paris à l'université de Pierre et Marie Curie qui s'appelle Paris-Sorbonne maintenant. Puis je suis parti aux États-Unis, faire quelques années aux États-Unis, 3 ans exactement au MIT à Boston. Ensuite, je suis retourné en Europe pour des raisons personnelles et j'ai vécu ensuite 3 années en Suisse jusqu'en 2006 et j'ai été recruté comme professeur enfin à l'université Joseph Fourier, Grenoble-Alpes actuellement. Depuis que je suis ici à Strasbourg, donc depuis 2012, je dirige le centre de modélisation et de simulation de Strasbourg qui s'appelle Semosis, qui est une plateforme de l'Université de Strasbourg pour tout ce qui est collaboration entre mathématiques et autres disciplines, et mathématiques et entreprises. Donc l'idée, c'est de mettre en place des collaborations où les mathématiques ont un rôle important à jouer et des collègues, soit du monde de l'industrie, soit d'autres disciplines, sont intéressés ou aimeraient pouvoir mettre en œuvre des méthodes avancées issues de la recherche. Voilà. Alors, du point de vue des thématiques, je suis plutôt un mathématicien appliqué, donc je m'intéresse en particulier à tout ce qui est calcul scientifique, calcul haute performance, tout ce qui touche en fait à l'utilisation des mathématiques dans un contexte, on va dire, d'application industrielle ou dans le domaine de la santé ou de la physique. Et impliquant en général l'utilisation de logiciels de calcul.
Et comment vous définiriez-vous ?
Actuellement, je me définirais comme une sorte d'entrepreneur du domaine du public, un peu une sorte de chef d'entreprise, sauf que ce n'est pas vraiment une entreprise, au sens où si jamais on se rate, on prend un certain nombre de risques. Hein, peut-être que les choix que l'on fait en matière de recherche, de méthodologie, les hypothèses sur lesquelles on démarre notre projet peut-être ne sont pas correctes et nous aurons éventuellement un problème. Alors évidemment, dans le privé où on a besoin d'avoir un retour sur l'investissement, eh bien dans le monde de la recherche, on est très privilégié et on a la possibilité de faire des erreurs. Bon, on essaye quand même de pouvoir tirer parti de ces erreurs, d'en apprendre et évidemment de corriger la trajectoire. Néanmoins, j'ai monté en place donc cette plateforme Semosis et j'ai autour de moi toute une équipe avec des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants de master, des étudiants en doctorat et avec lesquels je travaille sur différents projets de recherche et de développement. Et donc, assez similaire dans certains, pour certains projets à ce qui peut se passer dans le domaine industriel. Parce qu'on travaille, de ce point de vue-là, en mode projet.
J'aimerais bien maintenant vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des mathématiques ?
Alors la question est... j'ai pas trop réfléchi, vous m'avez envoyé la question il y a quelques temps, alors j'ai pas particulièrement réfléchi à cette question en particulier. Je pense que pendant mon parcours, j'ai bien aimé les mathématiques, le côté raisonné, on a un cadre très précis, on comprend bien a priori tout ce qui se passe, c'est une très belle construction... on sait à quoi s'attendre a priori. Donc je pense que cet aspect-là des mathématiques, cette construction abstraite, je pense que c'est quelque chose qui m'a évidemment attiré. Le côté enseignement aussi, c'est quelque chose que j'ai assez bien aimé très tôt. J'ai eu l'occasion, peu de temps après le baccalauréat, d'enseigner dans un lycée professionnel des mathématiques, que j'ai bien aimé. À des CAP, BEP, BTA. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé, ça m'a plu. Mais il y a un autre point, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un père informaticien qui a aidé à la conception de, à l'époque, ce qu'on appelait des supercalculateurs, des gros calculs. Et on a eu la chance d'avoir des ordinateurs, en tout cas au moins un ordinateur à la maison dès les années 80. Et évidemment, on pouvait faire tout un tas d'expériences, la possibilité d'ouvrir la machine. Et il s'avère que assez rapidement, j'ai bien aimé programmer. Et parmi les choses que je programmais, souvent, ça impliquait des mathématiques. Et j'ai beaucoup aimé programmer justement des algorithmes, des méthodes mathématiques que je voyais par exemple en cours, de pouvoir tracer des figures. Alors évidemment maintenant, quand on voit tous les outils qui sont à notre disposition pour l'enseignement, pour la recherche dans ce domaine, ça paraît dérisoire ce qu'on avait à l'époque, mais on n'avait pas du tout ces outils-là à l'époque et j'aimais beaucoup manipuler tout cela. Et je pense que la conjonction de toutes ces choses ont fait que je suis là, entre autres, aujourd'hui. Pas que, mais entre autres.
D'accord, c'est vrai que la plupart de nos invités me disent qu'ils aiment les mathématiques parce qu'ils aiment ce côté abstrait, que c'est toujours la même chose, qu'il ne peut pas avoir d'erreur d'un certain côté. Mais c'est vrai que certains m'ont aussi fait part qu'ils avaient toujours aimé la programmation, même s'il y avait des mathématiques peut-être plus théoriques.
Alors, juste peut-être pour revenir sur le point précédent, c'est quelque chose, pour peut-être apporter quelques points, enfin au moins un point supplémentaire, c'est quelque chose qui m'a marqué en fait avec la découverte des mathématiques appliquées. Donc ça, c'est arrivé sur le tard, les mathématiques appliquées à partir de la maîtrise. À l'époque, ça s'appelait la maîtrise. Dans les années, début des années 90, j'ai découvert, pour moi, c'était la découverte d'un nouveau monde et le lien, en particulier, d'apprécier le lien entre les mathématiques et les autres disciplines. Donc, en particulier, la mécanique, la physique. Et de voir à quel point on pouvait reproduire des phénomènes physiques avec les mathématiques. Et je trouve ça absolument fascinant de voir, justement, ce lien entre le monde qui nous entoure et la possibilité avec les mathématiques de le décrire. Alors évidemment, ce ne sont que des modèles, ce sont des approximations, on ne va pas décrire exactement ce qui se passe autour, mais on est capable de faire des choses absolument formidables en reliant la réalité à des objets mathématiques. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine absolument et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis là aujourd'hui.
Est-ce que quand vous étiez étudiant, vous avez eu déjà envie de changer d'orientation ?
Alors oui, tout à fait. Déjà, l'intérêt pour les mathématiques, en tout cas au lycée, pour ma part, c'est arrivé plutôt sur le tard. Je ne peux pas dire que les enseignants que j'avais eus en collège et début du lycée, le collège m'avait absolument passionné. Par contre, au lycée, j'ai eu la chance d'avoir des super enseignants. Et là, j'ai été absolument fasciné par les mathématiques que j'ai vues à l'époque au lycée. Ensuite, dans le parcours, à un moment, je me suis destiné à passer le CAPES et la GREG. Et donc, moi, j'allais passer le CAPES et la GREG. Et ça, c'était, je ne sais plus exactement l'année, mais Donc je m'étais inscrit à passer ces deux concours. Et puis par acquis de conscience, j'ai regardé un petit catalogue de formation. Et dans ce catalogue, je suis tombé sur un cours. Et je regarde le contenu du cours et je me dis, mais c'est exactement ce que je fais chez moi, à mes heures perdues. Enfin, en tout cas, des choses similaires. Et je me dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et là, je suis rentré dans le bureau qui gérait les inscriptions en master, dans les formations type master. Et j'ai dit, j'aimerais m'inscrire dans le master qui a ce cours, ou dans la maîtrise qui a ce cours. Et là, j'ai complètement réorienté ma formation. Alors, je suis resté dans le monde des mathématiques, mais je n'ai pas du tout passé le CAPES et la GREG, parce que là, j'avais trouvé ma voie. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Donc ça, c'était un grand tournant, et c'est un tournant qui s'est passé en quelques secondes.
Comme quoi, il faut pas toujours... Des fois, c'est bien de lire les brochures. Des fois, on apprend pas mal de choses. C'est vrai que même si vous êtes quand même resté plutôt dans les mathématiques, c'est vrai que... Souvent, quand on fait des études de mathématiques, on pense beaucoup au métier d'enseignant. Parce que la plupart des personnes à qui on peut poser la question, quand elles nous disent qu'on fait des études de mathématiques, elles pensent tout de suite à enseignement et recherche. Mais alors qu'en soi, on peut faire quand même d'autres choses. Et c'est peut-être un peu dommage, par manque de connaissances, de faire enseignant. Parce que des fois, quand elles sont enseignantes, elles se rendent compte que c'est pas du tout fait pour eux. Ce qui est le cas de mon précédent invité qui m'a dit que peut-être que s'il avait fait un stage, il serait pas devenu enseignant. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu plus votre expérience universitaire. Quel type d'étudiant étiez-vous ?
Quel type d'étudiant ? Bah, écoutez, ça, je dois avouer que je fonctionnais quand même pas mal au côté un peu passion. Il y a des cours où clairement je cartonnais complètement, et puis il y a d'autres cours où j'étais un peu moins intéressé par la matière, peut-être le fait que c'était l'enseignement, peut-être que je manquais de certains, enfin en tout cas d'une certaine envie en tout cas du domaine. Mais je dois avouer que en tout cas à l'université, donc à Jussieu à l'époque, Pierre et Marie Curie, j'ai eu la chance d'avoir des cours de personnes absolument passionnantes. Donc par exemple, moi j'ai fait ma thèse avec Olivier Pironneau, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il faisait les cours. Ça pouvait même être assez drôle par moments. J'ai eu également Philippe Sierlet, qui a écrit... un livre phare sur la méthode des éléments finis, par exemple, pour la résolution des équations et dérivées partielles. Et clairement, ces personnes, en tout cas, m'ont donné envie et j'ai pu pas mal m'investir, en tout cas, dans un certain nombre de cours, et en particulier tous les cours autour du calcul scientifique, de la résolution des équations aux dérivées partielles. Et il faut dire que j'étais les professeurs qui enseignaient faisait partie d'un laboratoire phare à l'époque qui s'appelait le laboratoire d'analyse numérique et qui maintenant s'appelle le laboratoire Jacques-Louis XI. Donc ça a été un environnement absolument passionnant, et donc on pouvait bien s'impliquer. Alors, je ne veux pas dire que j'étais à fond dans tous les cours, loin de là, mais en tout cas tout ce qui tournait autour du calcul, pour moi, j'étais extrêmement impliqué du fait du côté passionné. Donc je marchais beaucoup à ça, en fait. J'étais peut-être un peu moins motivé. J'étais pas forcément motivé à être le meilleur. C'est pas ça. C'était pas ma motivation. Ma motivation, c'était de faire les choses qui me passionnaient, en fait. Et je pouvais passer énormément de temps dessus. Peut-être trop.
Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai que je pense que certains enseignants qui sont... Des fois, on a certains profs qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, et qui arrivent justement à retransmettre cette passion à leurs élèves. Et je pense qu'ils jouent beaucoup dans nos choix d'orientation et pour l'avenir aussi. Ils nous donnent cette envie de faire ce qui les passionne. Alors que je pense que les professeurs qui n'aiment pas trop déjà être là ou qui n'aiment pas trop ce qu'ils font, et ben en fait, ils s'ennuient eux-mêmes. Et du coup, forcément, ils ennuient un peu leur public aussi. Pour revenir un petit peu plus aux mathématiques... Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites en mathématiques et quelle utilité cela a-t-il ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, bon, j'ai un métier de chercheur, donc mes prédécesseurs, en tout cas ma collègue Nalini a déjà dû vous expliquer un petit peu le métier de chercheur en mathématiques. Donc peut-être que je ne vais pas forcément reprendre ces points-là, mais peut-être donner des aspects un petit peu différenciants par rapport à ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai créé cette structure pour l'interface entre les mathématiques et d'autres disciplines ou les entreprises. Donc ça induit un mode de travail un petit peu particulier. Donc si je dois parler par exemple de la façon dont on peut travailler avec les entreprises, donc, typiquement le modus operandi est comme cela. C'est-à-dire que je vais à la rencontre des entreprises où les entreprises nous contactent parce qu'ils ont des besoins particuliers, ils veulent savoir si on peut répondre à certaines de leurs questions, ou au travers de salons, de rencontres dans des conférences, je rentre en contact avec des ingénieurs, des chercheurs ou des chefs d'entreprise qui travaillent donc dans des entreprises. Les discussions sont entamées et on trouve un point d'intérêt. On propose éventuellement des solutions par rapport ou en tout cas des voies, des pistes par rapport aux questions qui sont posées de la part de l'entreprise. Si l'entreprise est partante, on met en place ce qu'on appelle un contrat. Dans ce contrat, on va définir non seulement ce qui va être fait dans le cadre du projet, mais on définit aussi des ressources qui seront associées à ce projet. Alors, quand je parle de ressources, c'est typiquement qui va travailler sur le projet, pendant combien de temps, parce que cela a un coût. Et donc, il faut pouvoir justifier de ce coût. Est-ce qu'on va avoir besoin d'équipement ou pas? Est-ce qu'on va avoir besoin de se déplacer ou pas? Dans le cadre de ce contrat, eh bien, on le soumet à l'entreprise et elle est d'accord ou non de financer ce contrat. Si moi, je passe par exemple du temps dessus, éventuellement, en fonction du type de contrat, eh bien, le temps que je vais passer dessus sera rémunéré. Ça, c'est un type de travail qui peut être fait. Et donc, ensuite, on déclenche le projet et on a des réunions régulières. On travaille sur le projet en petite équipe et puis on livre régulièrement du travail. Ça peut être, par exemple, des présentations sur une certaine thématique en mathématiques pour former des membres de l'entreprise. Ça peut être des morceaux de code qui permettent de tester des nouvelles méthodes dans le contexte de l'entreprise et des démonstrateurs en général. Donc ça, c'est un certain type de travail. Un autre, donc ça, c'est plus ce qu'on appelle des prestations, en fait, qui sont faites aux entreprises. En gros, c'est, je ne suis pas péjoratif ici du tout, c'est ce qu'on appelle la baguette de pain. C'est-à-dire qu'on va chercher un produit sur l'étagère, il n'y a pas forcément de travail de recherche à la clé. On va utiliser des algorithmes ou des méthodes qui sont disponibles et elles seront mises en œuvre dans le cadre d'un projet de développement. Et donc, on sert de consultant, en fait, pour l'entreprise. Un autre type de projet, c'est plutôt la collaboration de recherche. Et là, il s'agit de pouvoir travailler ensemble sur une thématique pendant un an, deux ans, peut-être trois ans. Peut-être qu'il y aura un doctorat dans le cadre du projet. Et là, cette fois-ci, le temps ne sera pas forcément, n'est pas rémunéré. Par exemple, le temps que je vais passer ne sera pas forcément, n'est pas rémunéré. C'est un travail de recherche. Et on a mis en place une collaboration. Et donc, ça s'apparente beaucoup plus au travail de recherche que nous faisons dans un cadre strictement académique. Dans le cadre de ces collaborations, il y a d'autres aspects que justement le cadre académique où typiquement les entreprises chercheront à protéger les résultats, déposer des brevets. Il y a tout un tas d'activités qui sont plus mises en avant que quand on a une recherche strictement académique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce genre de choses dans un cadre académique. Ce type de collaboration, évidemment, on peut le faire aussi avec d'autres disciplines dans le cadre de la plateforme. Le modus operandi sera très similaire. Généralement, avec les autres disciplines, je cherche à mettre en place des projets de recherche typiquement sur trois ans, au moins trois ans, et il y aura typiquement un doctorat qui sera mis en place entre les mathématiciens qui travaillent sur le projet et les chercheurs de l'équipe disciplinaire avec qui on travaillerait. Et là, on est dans un cadre de recherche, on va dire, complètement classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut produire dans le cadre de l'équipe, de nos travaux? Donc, je dis tout à l'heure, par exemple, des présentations, des sortes de mini-cours pour présenter des nouvelles méthodes, des cadres mathématiques. Donc, ça, c'est une chose. On va pouvoir développer typiquement des méthodes numériques, les étudier théoriquement, de faire leur analyse, de pouvoir dire a priori un certain nombre de choses sur ces méthodes si ça paraît aller dans la bonne direction pour résoudre le problème qui nous intéresse. Et une fois que ces méthodes sont identifiées, de pouvoir les implémenter et fournir éventuellement un logiciel. Donc en général, dans la plupart des projets sur lesquels je travaille, je peux dire quasiment tous les projets sur lesquels je travaille, il y a une composante logicielle. En particulier, on développe un logiciel qui s'appelle Phil++. C'est pour nous une grosse plateforme. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on l'a démarré, ce logiciel. Et pour moi, ce logiciel ou cette librairie ou cet ensemble de logiciels, cette chaîne logicielle, joue un rôle extrêmement important dans la stratégie de recherche et la mise en place de collaborations avec des industriels et d'autres, et d'autres disciplines. Donc c'est un élément clé dans la collaboration.
C'est vrai que vous faites des projets donc assez variés et vous collaborez quand même assez régulièrement avec des entreprises. Dans quelle mesure les collaborations entre les mathématiciens et les entreprises peuvent-elles apporter quelque chose à notre monde actuel selon vous ?
Alors, je crois que les mathématiques jouent un rôle absolument crucial dans le monde qui nous entoure. Il y a quelques années, on avait mis en place, on avait développé ce qu'on appelle le rapport ESEM. C'est un rapport sur l'impact socio-économique des mathématiques. Ce rapport a permis d'identifier un certain nombre de domaines où les mathématiques vont avoir un impact. Un impact industriel ou au niveau sociétal. Ça apparaît absolument partout. Alors, pas forcément... Les mathématiques sont... Enfin, ça nous fournit un cadre et des outils à part entière. En tant que mathématicien, on développe ces outils, on les fait avancer, on développe de nouveaux outils mathématiques, mais des collègues d'autres disciplines ou du monde industriel peuvent eux-mêmes s'approprier ces méthodes et les développer eux-mêmes. Elles sont absolument partout, dans tout ce qui nous entoure. Dans notre monde moderne et technologique, les mathématiques sont absolument partout, sous une forme ou sous une autre. La difficulté actuelle, on va dire, pour, je pense, le grand public, pour nos auditeurs, c'est voir que, en fait, ces mathématiques, elles sont complètement packagées et cachées par les couches logicielles et par les interfaces. Alors, c'est quelque chose qu'on déplore un petit peu avec quelques collègues au niveau européen, toute une communauté de collègues mathématiciens au niveau européen. Et on essaye justement de faire ressortir l'impact que les mathématiques ont pour notre société. Alors, en termes marketing, on a sorti par exemple un magnifique logo qui s'inspire du logo de Intel Inside. On a remplacé Intel par Math Inside, pour indiquer qu'en fait, dans tout ce qui nous entoure ici, dans cette pièce, entre autres, mais comme je l'ai dit avant, dans toute notre société, ben, les mathématiques sont absolument partout. Un dernier point, vous avez vu une illustration. Vous savez que, par exemple, là, j'ai un ordinateur devant moi. Les ordinateurs, c'est absolument hallucinant les progrès qui ont été faits en quelques décennies. C'est absolument inouï. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Enfin, moi, je m'en rends compte parce que j'ai vécu ça étant petit et j'ai vu à quoi ça correspondait et où on est là actuellement. Il est intéressant de voir justement la courbe de performance au cours du temps, comment les ordinateurs, comment les processeurs ont progressé en termes de capacité de calcul et d'opération. Mais il s'avère qu'on peut faire une courbe, on peut développer une courbe tout à fait similaire avec l'avancée des algorithmes mathématiques. Et au cours de l'histoire de ces dernières, de ce siècle dernier, un certain nombre de méthodes mathématiques ont eu un impact absolument considérable également sur le monde qui nous entoure. Et ce n'est pas seulement le fait que les ordinateurs sont devenus plus puissants, que tout s'est simplifié. C'est aussi parce qu'un certain nombre de méthodes sont apparues, ont été développées et ont permis de pouvoir résoudre des problèmes de manière beaucoup plus rapide, mais de manière absolument incomparable avec ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc il y a eu des gains considérables grâce au développement de nouveaux algorithmes. On parle aujourd'hui, par exemple, d'intelligence artificielle, et là, clairement, c'est la conjonction à la fois de capacités de calcul très importantes, mais en même temps d'algorithmes qui sont extrêmement fins et qui ont mûri au cours des années et qui savent exploiter ces capacités de calcul.
C'est vrai que quand on demande aux gens ce qu'ils pensent des mathématiques ou ce que sont les mathématiques pour eux, ou à quoi ça sert, souvent, on me répond que ça sert à calculer ou que tous les théorèmes ne servent pas grand-chose dans la vie de tous les jours. On me parle beaucoup de calcul et on pense pas forcément à toutes ces nouvelles technologies qui utilisent quand même pas mal les mathématiques. On me dit plutôt c'est de l'informatique, c'est pas des mathématiques. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, les mathématiques et l'informatique se croisent de plus en plus. Quelle est, selon vous, la différence entre un mathématicien qui fait de l'informatique et un informaticien qui fait des mathématiques ?
Alors, j'ai compris dans ma carrière qu'il fallait faire des fois un petit peu attention aux termes qu'on manipulait. Et je me rappelle, il y a quelques années, il me semble avoir utilisé mal à propos le mot « informatique ». Devant des collègues informaticiens. Et j'ai été repris, on m'a dit, non, vous ne faites pas de l'informatique, vous utilisez, des étudiants vont utiliser des outils informatiques. Donc les collègues voulaient m'expliquer, enfin en tout cas m'ont expliqué qu'il faut faire attention, non, c'est, là ce n'est pas de l'informatique, ils sont en train de manipuler des outils informatiques. Donc il faut faire un petit peu attention, effectivement, au raccourci, comprendre un petit peu à quoi correspond le métier, les métiers de chacun. Alors, il peut y avoir des informaticiens qui font des mathématiques parce que certains domaines... Enfin, on pourrait dire que l'informatique est une branche des mathématiques. Dans certains domaines, c'est très clair. Il y a des informaticiens qui font des choses extrêmement théoriques. Parce que le domaine sur lequel ils travaillent, ce sont les informaticiens qui le sont appropriés. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je dirais que, en tout cas, dans mon domaine... Les frontières sont un petit peu floues. Vous voyez, par exemple, en France, il y a très peu, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de collègues qui travaillent sur tout ce qui est algèbre linéaire, le développement d'algorithmes pour résoudre des très grands systèmes linéaires. Et donc, en France, me semble-t-il, ce sont plutôt les collègues informaticiens qui se sont appropriés le calcul haute performance associé à la résolution de très grands systèmes. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ce domaine est vu plutôt comme un domaine de mathématiques. Vous voyez ? Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté école et culture mathématique avec ce qui est mis en avant par chacune des écoles et cultures associées à un pays. Si je ne me trompe pas, la mécanique, par exemple... est un domaine qui, en France, est plutôt associé, par exemple, à la physique. Et dans d'autres pays, pour être associé aux mathématiques. Moi, j'ai eu la chance de voir ça. En tout cas, dans les pays où j'ai eu la chance de vivre. C'est-à-dire les États-Unis et la Suisse. Si je dois donner mon opinion, je crois qu'il faut regarder au cas par cas. En général, je pense que le mathématicien aura tendance justement à s'appuyer plus sur les résultats théoriques pour développer ses outils informatiques, alors que l'informaticien qui fait peut-être des mathématiques, aura une vision plus algorithmique et gestion de la complexité par rapport au mathématicien et aura peut-être une implémentation ou des résultats qui sont plus efficaces ou une utilisation plus adapté à l'outil informatique. Ce sera peut-être ça, mais il faut vraiment voir à chaque coup. Hein. Donc, les dogmes, là, je ne crois pas que ce soit... Ça marche tout le temps.
C'est vrai que c'est un petit peu parfois difficile de faire la distinction entre ce qui relève des mathématiques et de l'informatique, parce que Des fois, les deux se complètent un petit peu. Et même les personnes, elles ont un petit peu du mal à nous dire si c'est vraiment que des mathématiques ou que de l'informatique. Je pense qu'on peut pas forcément, qu'on a peut-être pas besoin de tout mettre dans une catégorie spéciale parce que, au final, ce qui compte, c'est ce qu'on fait et pas forcément de mettre une étiquette à ce qu'on fait.
Alors, je suis désolé, je vais revenir sur le point que vous avez dit parce que je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion sur le point précédent. J'aimerais juste faire une petite remarque pour aller dans votre sens. C'est que je crois que pour s'attaquer aux problèmes actuels qu'on a, ça peut être les problèmes climatiques, ça peut être les problèmes de santé, les challenges sociétaux, les challenges industriels que nous pouvons avoir et où les mathématiques ont leur mot à dire. Mais pour résoudre ces problèmes-là, on n'a pas besoin que de mathématiques. On a besoin de tout un tas de compétences. Et pas que de mathématiciens. Le mathématicien apporte clairement sa vision des choses. Certainement, beaucoup de bonnes idées. Aucun souci avec ça. Mais pour résoudre les problèmes actuels, on a besoin de tout un tas de compétences pour pouvoir y arriver. Donc, entre autres, des collègues informaticiens, des collègues en physique, des collègues en biologie, des industriels, des financeurs. Pour pouvoir attaquer ces problèmes-là, ces challenges-là, à un moment, on a besoin de beaucoup, beaucoup de compétences différentes. Donc, tout à fait d'accord avec votre conclusion.
Et maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de tout ce qui relève un petit peu de l'enseignement, parce que vous êtes mathématicien, mais vous êtes aussi parent. Comment est-ce que vous apprenez les maths à vos enfants ?
Alors, mes enfants sont encore un petit peu jeunes, donc 6 ans et 10 ans, 11 ans. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'ils ont plutôt tendance à, des fois, pas vouloir raconter ce qu'ils font à l'école. Hein. Donc, ils sont encore un peu petits. Bon, j'essaye de savoir un petit peu ce qu'ils font, d'essayer de les titiller. Bon, pour le moment, ça se passe très bien. Ils sont en allemand. Alors, ils ont des cours en allemand, donc ils font que de l'allemand. Donc, pour moi, c'est pas forcément évident parce que je parle allemand, mais je suis pas suffisamment compétent pour faire des mathématiques en allemand. Je me débrouille au niveau où ils le font, hein. Et donc c'est plutôt mon épouse qui les suit de ce point de vue-là. Alors, par contre, on a là où j'essaye de pousser mes enfants, c'est qu'ils aient des petits jeux mathématiques, de pouvoir leur faire travailler les raisonnements, de voir quelles pourraient être les différentes solutions associées à un problème, de pouvoir expliquer mais à quoi ça sert, ce que vous êtes en train de faire là actuellement, concrètement, de donner des exemples, un petit peu ce que j'essaye de faire aussi au niveau du master CSMI, mais évidemment là, c'est à l'autre bout de la chaîne, hein. C'est en fin de parcours de master, mais c'est un peu le même principe. Alors, il y a un de mes enfants qui est un petit peu plus passionné par les mathématiques que l'autre, mais les deux se débrouillent très bien, et on a eu la chance de, dans leur classe, ils manipulent les logiciels pour faire des exercices en mathématiques sous forme de jeux. Et je trouve ça absolument super. C'est donc des jeux avec des graphismes, certes enfantins, mais qui leur permet de faire tout un tas d'opérations, de tester leurs connaissances, voire de faire des tournois au niveau mondial, c'est-à-dire de jouer contre d'autres enfants et de faire des compétitions en ligne. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, on se retrouve à faire justement ces petits exercices ensemble, à expliquer comment telle ou telle chose fonctionne. Et avec le confinement, j'ai un de mes enfants qui fait, on va dire, 2 années de mathématiques au travers de cet outil logiciel. Donc, il a pris un petit peu d'avance, mais en même temps, il était passionné par la découverte des mathématiques.
C'est vrai que je trouve que c'est toujours un peu difficile de trouver la manière de présenter les choses à des enfants. Surtout que souvent, on parle de choses assez simples, mais au final, c'est pas forcément facile justement d'expliquer ces choses qui paraissent assez évidentes pour nous. Et je trouve que c'est tout un challenge justement d'arriver à faire comprendre un peu les mathématiques aux enfants et de leur montrer à quoi ça sert. Et c'est vrai que le jeu, je pense que c'est quand même un bon moyen de motiver les enfants à apprendre des nouvelles choses, même si je pense que la plupart des enfants aiment bien apprendre de tout et de rien. Souvent, ils sont assez curieux et ils aiment bien poser des questions sur beaucoup de choses variées, même sur tout le monde qui les entoure, en fait. Ils sont souvent... Ils ont envie de comprendre le monde qui les entoure, même si, des fois, c'est peut-être un petit peu difficile, justement, de leur expliquer. Et je trouve que, justement, se mettre au niveau des enfants ou expliquer à des personnes qui ne sont pas du tout expertes, c'est quelque chose de très compliqué. Alors que ça paraît... On se dit que non, c'est facile à expliquer, alors qu'en fait, c'est très, très difficile de vulgariser ce qu'on connaît. C'est quelque chose de vraiment difficile.
Alors, pour pouvoir vulgariser ou pour pouvoir... pouvoir discuter avec la personne en face de soi au bon niveau, un élément, c'est quand même de connaître le niveau de la personne en face. Et une première étape, c'est justement de comprendre quel est le niveau. Là, je le vois justement avec les étudiants que je peux avoir en licence ou en master ou en doctorat. Et des fois, on se dit, on s'attend à un certain niveau. Et en fait, non, ce n'est pas le niveau auquel on s'attend et c'est un autre niveau. Il y a peut-être des parties qui n'ont pas été vues ou qui n'ont pas été comprises. Et je crois que pour pouvoir discuter, pour pouvoir enseigner, un aspect, c'est justement de connaître son audience et donc les gens avec qui on... Enfin, ce que savent déjà les personnes avec qui on est en train de discuter et de parler de mathématiques.
Maintenant, nous allons nous concentrer un peu plus sur votre vie et sur votre métier. Pour commencer, diriez-vous que vous vivez la vie que vous souhaitez vivre ?
Ah oui. Oui. Je crois que j'ai vraiment eu... Il y a eu des moments de ma vie, des tournants, qui pour moi ont été des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont guidé et j'ai eu des opportunités. Alors, les opportunités, il faut savoir les saisir. Donc, ce n'est pas que ça arrive tout cru comme ça. Il faut aussi comprendre que c'est une opportunité et pouvoir les saisir. Et là, je dois avouer que même s'il y a des choses dans mon travail qui ne me fascinent pas totalement, il y a des aspects de mon travail comme par exemple corriger les copies. C'est pas forcément la chose qui me fascine le plus ou des aspects administratifs de mon travail, mais globalement, moi je suis extrêmement heureux de là où je suis, de ce que je peux faire, des projets sur lesquels je travaille, avec une liberté absolument, une liberté mais aussi des responsabilités, mais on choisit les projets sur lesquels je travaille, que je développe, et c'est absolument super.
Tant mieux. C'est vrai que je pense que pour vraiment vivre la vie qu'on souhaite vivre, déjà il faut commencer par la choisir et vraiment être acteur et pas se laisser, on va dire, porter, mais vraiment choisir et des fois faire des choix peut-être difficiles. Alors maintenant, je sais que vous travaillez sur beaucoup de projets différents et que vous avez des activités assez variées. Donc j'aimerais bien parler un petit peu d'organisation. Comment arrivez-vous à concilier toutes vos activités ?
Alors ça demande beaucoup de temps. Donc, il y a quelques années, évidemment, j'ai eu à préparer énormément de cours. Donc évidemment, sur tous ces cours, comme j'ai fait beaucoup de cours, j'ai aussi beaucoup de matériel pour les cours. Donc ça me permet aussi de réduire l'impact de la préparation des cours pour l'enseignement, même s'il faut adapter les exercices, toute cette partie-là. Et puis, il y a des nouveaux enseignements aussi à préparer. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps, mais que j'aime bien faire, est actuellement plutôt sous contrôle. Il y a une partie évidemment administrative du travail. Et là, avec l'expérience acquise, j'ai réussi à avoir une organisation qui pour le moment fonctionne assez bien, donc avec un système de gestion de tâches. Donc là, je dois organiser effectivement mon temps. Donc il faut tenir le calendrier, il faut avoir à peu près les on va dire les les tâches ou les choses qu'il y a à faire régulièrement. Donc j'essaye de caser, on va dire, la partie administrative et la partie, en tout cas, développement de l'enseignement. La partie enseignement, celle-là, elle est fixée, hein. Mais développement de l'enseignement, gestion du master dans mon temps de recherche. Donc la grande difficulté, c'est de pouvoir contrôler le temps de recherche. Parce qu'il y a à certains moments, il y a évidemment des sujets ou des problèmes qui nécessitent plus de temps. Qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas forcément prévues, ça prend plus de temps, faut trouver le problème ou pourquoi une méthode qu'on pensait qui allait fonctionner ne fonctionne pas. Et ça peut être extrêmement chronophage. Donc on peut se retrouver à passer un temps absolument incroyable, indécent, et à travailler bien au-delà des 32, 35 ou 45 heures par semaine. Bien au-delà des fois, oui. En général, le temps est à peu près sous contrôle et c'est nécessaire aussi pour avoir une vie de famille. Donc ça, c'est évidemment important. Mais le monde de la recherche fait que, la contrepartie du côté passionnant ou passion du monde de la recherche, c'est que quand on rentre chez soi, malheureusement, on n'arrive pas à mettre le cerveau au placard. En tout cas, pour moi, c'est quasiment impossible. Et donc, je me retrouve quasiment en mode où je réfléchis constamment ou très souvent au travail que je fais. Donc il y a un travail un peu en continu, en background, des fois même foreground, hein, donc où je réfléchis à ce que je fais. Alors évidemment à mes différents problèmes. Alors évidemment, des fois ma famille se plaint que ça peut se passer comme ça, et donc c'est pas un très bon management de temps là de ce point de vue-là. Mais bon, là, je dois avouer que j'arrive à peu près à contrôler mon temps en général. Il y a des périodes où on doit publier des articles, on doit préparer des présentations pour des conférences, on doit soumettre des articles à temps pour une publication dans un journal, ce genre de choses. Donc ça, c'est des gros moments des coups de bourre où il faut s'investir souvent assez fortement pour pouvoir finaliser le travail. Mais c'est, en général, il y a eu aussi un investissement déjà plusieurs mois déjà avant, mais à la fin, il y a tout un tas de choses à finaliser. Donc, comment faire ? Faut définir des tâches, avoir un calendrier avec des deadlines, anticiper les problèmes, s'entourer de personnes ou de collaborateurs qui ont un sens aussi des responsabilités, pas que toutes les responsabilités soient sur vous, parce que c'est nécessaire de pouvoir aussi déléguer du travail, de pas avoir forcément à tout faire, mais aussi de pouvoir donner des responsabilités à des collègues de telle manière à décharger aussi dans les activités. Alors c'est pas toujours évident de donner des responsabilités aux autres, mais c'est des choses qui se font dans le temps, et je dois avouer que j'ai la chance d'avoir des collègues extrêmement agréables et avec qui c'est un grand plaisir de travailler et de donner aussi et de partager des responsabilités avec eux.
C'est vrai que l'organisation, c'est toujours un petit peu compliqué parce que faut trouver un petit peu sa manière de s'organiser, mais qui marche quand même assez bien. Même si c'est vrai que il y a des choses quand même un petit peu communes, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur le fait de déléguer, c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes qui, par exemple, des entrepreneurs qui disent toujours que déléguer c'est nécessaire, mais que c'est quelque chose de très difficile parce que quand on délègue quelque chose, on sait que cette chose elle sera jamais faite comme nous on l'aurait fait ou comme nous on aurait voulu que ce soit, et que je pense qu'il faut être un petit peu se dire que c'est pas forcément exactement comme on l'aurait fait, mais que c'est quand même bien aussi. C'est ça qui est pas forcément facile. Et j'aimerais savoir quelles compétences vous voudriez améliorer, pour quelles raisons et comment.
Alors là, je dois avouer que j'ai pas vraiment réfléchi à cela. Un grand problème, enfin, je crois qu'une des difficultés en général, c'est d'arriver à communiquer, à bien communiquer. En particulier pour moi, j'ai une équipe, j'ai un certain nombre de collaborateurs, des personnes que je recrute sur des projets. Ça demande quand même effectivement une certaine prise de responsabilité, aussi de cadrer les axes de recherche, de développement, de faire en sorte que on arrive à délivrer ce qu'on a à faire. Des fois, je sens que ça va bien, tout se passe très bien. Et puis d'autres fois, j'ai l'impression, je mets pas du tout la faute sur les collègues, il y a des difficultés peut y avoir des difficultés de communication, d'arriver à bien communiquer. Il me semble que beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans la vraie vie, dans la vie professionnelle comme personnelle, sont issus de problèmes de communication. Et arriver à bien communiquer ce qu'on veut dire et se rendre compte, c'est pas forcément évident. Donc j'ai l'impression que à certains moments, j'y arrive à peu près bien, et il y a d'autres moments, ça pourrait être mieux. Et voilà, ça c'est des expériences personnelles, et c'est quelque chose où j'aimerais pouvoir effectivement m'améliorer. Maintenant, en tant que chercheur, on est en mode normalement, on est censé être en mode amélioration permanente, amélioration continue. Donc, on est en apprentissage permanent. Et ça, c'est absolument super. C'est absolument super. Donc, on est en train d'apprendre des nouvelles choses, comprendre des nouvelles choses, les intégrer dans notre construction intérieure mathématique, faisant le lien avec, pour ma part, essayant de faire le lien aussi avec tout ce qui se passe autour de moi et de voir comment ça peut être aussi utilisé à des fins pratiques. Mais ça, on essaye de faire ça tout le temps, c'est notre métier. Mais la communication me semble quelque chose d'extrêmement important. Mais extrêmement important.
C'est vrai que je pense qu'on apprend des choses tout au long de notre vie. Et je pense que tout ce qu'on apprend dans la vie, mais pas forcément que de manière, pas que dans le domaine professionnel, mais tout ce qu'on apprend dans chaque domaine de notre vie, au final, je trouve que tout est utile, en fait. Il faut pas forcément se fixer sur un seul domaine et une seule compétence ou un type de compétence à apprendre, parce que après, on progresse pas sur le reste. Et je trouve qu'il y a des gens qui se focalisent trop sur, par exemple, le professionnel, mais ils oublient tout d'apprendre des choses sur l'aspect peut-être plus personnel, et que moi, je pense que c'est aussi utile d'apprendre des choses assez variées, et qu'au final, je pense que ça fait aussi la personne qu'on est, et qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule chose, mais qu'il faut vraiment apprendre de tout. Et justement, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez appris dans votre métier ?
Alors là, je peux pas vous faire un listing à la Prévert, je crois pas que ce soit le sens de votre question, mais très certainement, le fait de travailler sur des mathématiques, de travailler avec les mathématiques, sur les mathématiques, de faire travailler en lien avec le monde extérieur aux mathématiques, qu'est-ce que ça m'a appris? Alors, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est persévérance. Donc, dans le monde de la recherche, il faut vraiment être persévérant. Donc, persévérer, vous avez... la recherche, c'est quelque chose qui se fait sur un temps assez long, même si certains de mes projets sont sur des temps plus courts. C'est plus de l'ordre de la prestation que du projet de recherche. Par exemple, j'ai développé des idées dans les années 2000 et qui aboutissent maintenant, avec des objectifs qui aboutissent maintenant. Et donc, ça a pris du temps à germer et à donner des résultats concrets. Ce qui me permet, par exemple, maintenant, de pouvoir aller vers des projets où peut-être on fera de la maturation technologique, c'est-à-dire de transférer des choses que nous faisons en recherche ici vers le monde de l'entreprise. Donc, persévérer, la persévérance, en tout cas, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris. Et puis, on peut douter, alors c'est lié à la persévérance, mais le doute, évidemment, c'est quelque chose qui peut être des fois présent, des fois fortement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans certains choix? Alors ça peut être des choix scientifiques, ça peut être des choix technologiques, ça peut être des choix de personnel, de personnes. Et là, évidemment, c'est lié à la persévérance, mais on apprend aussi à combattre le doute. Et à essayer de formuler des raisonnements, des constructions, à s'adapter, à être capable de s'adapter, à trouver de nouvelles opportunités pour rebondir malgré le doute, malgré les difficultés. Alors, dans le domaine industriel, on appelle ça éventuellement pivoter, ce genre de choses. Pour ma part, effectivement, c'est... Il y a peut-être un des chemins qu'on est en train de parcourir, eh bien, on est allé dans une impasse. Mais cependant, ce chemin, est-ce qu'on peut quand même... Une partie de ce chemin, est-ce qu'on peut quand même l'exploiter? Et en général, moi, j'essaierai justement de l'exploiter. Et donc, il faut arriver à rebondir. Et l'échec qu'on aurait pu avoir, ou le demi-échec qu'on aurait pu avoir, il faut arriver à le transformer en quelque chose qui sera utile par ailleurs. Et donc, je crois aussi avoir appris de ces choses-là. Donc, persévérance, lutter contre le doute et de pouvoir rebondir et utiliser... trouver des opportunités dans les choses qui se passent pas forcément toujours bien. Donc, quand on a un problème, des fois, un problème, ça peut être une opportunité. Et je dois avouer que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et c'est incroyable comme ça peut marcher. Donc, ça m'a aussi appris ça, mon métier.
C'est vrai que des fois, on a du mal à trouver le positif quand tout va mal. Et je pense que vous avez assez bien résumé ce dont vous vouliez parler. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver dans la vie?
La pire chose? Ah bah, moi, c'est un niveau personnel. C'est évidemment... c'est la perte de ma famille. Enfin, ça me paraît... Pour moi, c'est évident. Évidemment, le travail, c'est quelque chose de passionnant. Mais pour moi, je place ma famille bien au-dessus de tout cela. Et ce serait évidemment la pire chose qui puisse m'arriver.
Si vous pouviez revenir en arrière, est-ce que vous changeriez des choses ou est-ce que vous feriez les choses de la même manière que vous les avez faites?
C'est très compliqué de dire ça, de les what if, hein, c'est ça, hein, les et si. D'un point de vue personnel, je dois avouer que je me suis toujours, et déjà depuis que je suis tout petit en fait, je me suis toujours projeté dans le imaginer les choses que je vais faire. Pas les choses que j'aurais pu faire, si je dois répondre de manière honnête. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui se projette dans le futur et justement qui va essayer de trouver des opportunités, de voir comment naviguer. Hein. C'est la navigation, hein, d'une certaine manière. Comment évoluer dans le monde qui nous entoure, dans notre métier ou à un niveau personnel. Moi, je considère que mon parcours, enfin... Si j'ose l'expression, j'adore mon parcours. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens que j'apprécie beaucoup, qui m'ont beaucoup appris. J'ai eu des expériences très diverses et variées. J'ai pu vivre dans différents pays, voir différentes cultures et suffisamment longtemps pour les apprécier. Donc non, j'ai pas l'idée de faire ce type... ce type d'exercice. Peut-être, ça m'est arrivé, si peut-être, de dire ce qui se serait passé si j'étais resté aux États-Unis. Probablement, c'était quelque chose qui aurait... c'est un choix qui s'est fait dans ma vie où je suis rentré en Europe. Donc, ça aurait pu... j'aurais pu rester effectivement aux États-Unis beaucoup plus longtemps, peut-être aussi pour toute ma carrière. Alors, c'est peut-être le seul moment où... je peux des fois me réfléchir, pourquoi être rentré en Europe? Est-ce qu'on aurait pas pu aussi s'implanter aux États-Unis?
Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que de toute façon, moi je pense que le passé, de toute façon ce qui est passé, on ne peut plus agir dessus. Donc c'est bien d'apprendre du passé, mais ressasser le passé, des fois ça ne sert pas à grand-chose. Et il vaut mieux voir ce qu'on peut faire pour peut-être améliorer sa vie ou ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Et justement, vous disiez que votre famille est très importante. Quelle est l'importance de votre entourage et de votre environnement dans votre métier?
Je dirais qu'ils supportent mon implication dans mon travail. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, ils en font des fois les frais, au sens où je peux partir en mission... Des fois, je peux travailler tard le soir ou ça peut m'arriver de travailler le week-end. Alors, j'essaye d'éviter. Hein. Alors, généralement, ce sera travailler le soir une fois que tout le monde est endormi. Voilà, donc ils supportent mon investissement dans mon travail. Donc, évidemment, ça, c'est la contrepartie du côté passionnel.
Et j'aimerais bien vous demander un petit peu plus sur, on va dire, le futur. Quels sont vos rêves ?
Alors, depuis longtemps, je voulais pouvoir créer une entreprise. J'ai eu des opportunités par le passé. Alors, ça ne s'est pas concrétisé. Hein. J'ai beaucoup avancé, j'ai mûri un certain nombre d'idées. Et j'espère que dans les prochains mois, eh bien, on y arrivera. En tout cas, il y a un projet sur lequel on travaille où j'espère qu'on pourra effectivement créer une entreprise ou bien vendre la technologie qu'on développe. Ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. C'est-à-dire être capable de travailler sur toute la chaîne. C'est-à-dire, on a démarré du laboratoire, donc d'une idée. On part d'une idée et cette idée, on la transforme et ça devient des outils qu'on a effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les mathématiques qu'on développe, elles sont packagées. Donc, on les package et on en crée. Alors, pour le coup, pour ce qu'on est en train de faire, on crée des services. Ben moi, j'aimerais pouvoir vivre l'expérience d'aller jusqu'au bout, la création d'entreprises, de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et avec les propres outils qu'on a développés. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que quelle est sinon la finalité, enfin, quelle serait sinon la finalité de ce qu'on est en train de faire. Alors moi, je comprends évidemment aussi les collègues qui vont dire, bon voilà, nous, on reste à la pointe dans le domaine des mathématiques et on va développer les mathématiques. Bon, là, forcément, dans nous, ce qu'on fait, bah, on doit sacrifier du temps de recherche en mathématiques pour pouvoir permettre le développement de ce packaging de nos méthodes mathématiques pour pouvoir les rendre utilisables à un niveau industriel. Mais je trouve ça absolument intéressant d'amener des méthodologies très avancées à un niveau où c'est utilisable, exploitable par des industriels. Alors il s'avère que le projet en plus, il est lié à, évidemment à la crise climatique que nous vivons. Et donc il aurait aussi un impact, j'espère, enfin a priori, il aurait aussi un impact dans ce domaine. Donc le rêve, ce serait effectivement on réussisse cette transformation.
Très bien. On verra ça du coup si ça se concrétise par la suite. Donc j'aimerais bien revenir un petit peu sur le fait que vous nous avez dit que vous avez travaillé au MIT aux États-Unis et que vous avez aussi travaillé en Suisse. Pourquoi êtes-vous parti à l'étranger et qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Alors pourquoi je suis parti à l'étranger ? Alors je dois avouer que j'ai toujours été assez fasciné par la culture américaine, mais en général, de pouvoir visiter le fait de pouvoir visiter un pays, de pouvoir appréhender sa culture, bon, c'est quelque chose évidemment qui intéresse beaucoup de monde. Mais j'ai fait un petit peu de d'histoire, de science, des choses comme ça, et donc j'ai pu apprécier certains développements scientifiques d'un point de vue historique. Je trouvais ça fascinant. Et il y avait quelques endroits, effectivement, aux États-Unis, que je trouvais particulièrement attirants. En particulier, les États-Unis sont toujours au cœur du développement des supercalculateurs. Et donc, à l'époque, c'était quelque chose aussi qui m'attirait beaucoup. Et donc, l'opportunité d'aller aux États-Unis, de travailler, en tout cas, dans des environnements, éventuellement assez différents, me fascinait. Alors, à l'époque, je dois avouer que moi, j'étais en fin de doctorat. Et j'étais en train de rédiger mon doctorat. Hein, et mon directeur de thèse rentre dans le bureau et me dit que, il y a... collègue des États-Unis, donc le professeur Anthony Patera, qui est là pour quelques semaines et qui recherche un postdoc. Il m'a juste donné cette information. Et c'est là, ça c'est un deuxième tournant après celui dont j'ai parlé tout à l'heure sur le passage du CAPES à Greg à calcul scientifique. Eh bien, j'aurais pu ne rien faire. En fait, je me suis levé tout de suite et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, à Tony Patera, j'aimerais je serais intéressé à venir chez vous comme postdoc. Et quelques jours après, j'avais une réponse positive. Et 2-3 mois après, j'étais aux États-Unis. Et c'était absolument génial. Absolument génial. Donc, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je n'ai même pas réfléchi le fait d'aller... C'était l'idée de pouvoir, d'avoir une opportunité d'aller à l'étranger. En particulier, là, c'était le MIT. Donc, un centre absolument mythique de la recherche.
On peut dire que vous avez vraiment eu de la chance et une opportunité qui s'est présentée à vous.
Mais en même temps, je l'ai prise.
C'est sûr. Et en quoi la manière de travailler à l'étranger est-elle différente par rapport à la France ?
Alors, j'ai besoin de réfléchir un petit peu. En quoi c'est différent de travailler aux États-Unis et en France ? Alors, le milieu américain est un milieu, je trouve, en tout cas, de ce que j'en ai vécu, c'était quand même assez intense. Alors, on a très peu de jours de vacances, hein. C'était une dizaine de jours par an. Donc, évidemment, assez différent de ce qu'on peut vivre en France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas forcément compte de ça. Alors, en tant que célibataire à l'époque, évidemment, ça, c'est pas tellement un problème. Et la vie en tant que célibataire aux États-Unis, c'est très bien. Donc, en tant que chercheur, c'était tout à fait intéressant d'être aux États-Unis. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant, en tout cas au MIT, c'est qu'il y avait de la vie absolument tout le temps. Tout le temps. Et donc, quand j'y suis arrivé, ben moi, je connaissais absolument personne. Et je n'avais pas accès à Internet. Donc, à l'époque, c'était début des années 2000. Donc, on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant. Et je me suis retrouvé, pendant Noël, aller, par exemple, au bureau. Et c'est ouvert. C'est ouvert. Et vous trouvez du monde. Et vous trouvez du monde pendant la nuit également. Ça m'est arrivé, bah, par exemple, vous avez des infrastructures de sport auxquelles vous pouvez avoir accédé. On revient dans les bureaux. Il y avait quelques calculs qui étaient lancés. On vérifie les calculs parce que vous êtes sur un campus. Tout était très connecté. Et j'ai toujours trouvé surprenant de voir que j'avais envie de dire presque un organisme vivant. Il y avait constamment, quasiment constamment du monde, de la lumière. Alors, ce n'est pas forcément la foule, mais il y a du monde. Je trouve que ça donne une atmosphère de tout à fait particulière pour le travail. Tout à fait particulière. Donc ça met... je pense que c'est vraiment une expérience à part entière de vivre ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. En Suisse, alors la Suisse, je crois, en tout cas le PFL, qui était aussi une... Le MIT, c'est une école d'ingénieurs. Le PFL, c'est aussi une école d'ingénieurs. Avec, évidemment, des laboratoires de recherche et des chercheurs. Alors, bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais des collègues... Enfin, le PFL, tu sais, bah, nous, on est le MIT européen. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres au niveau européen qui pouvaient... Ils pouvaient dire qu'ils étaient le MIT européen, mais j'ai entendu en tout cas cette expression-là. Alors pour ma part, je n'étais pas d'accord avec ça, parce que j'avais été justement au MIT, et cette différence justement sur le côté très vivant, mais vivant constamment, c'est la notion de campus, elle est très très différente encore de ce qu'on peut voir même ici en France. Et bien moi, ça m'a vraiment marqué de voir à quel point il y avait constamment du monde. Constamment du monde. Et ce qui n'était pas le cas à l'EPFL. Là, c'est beaucoup plus sur le mode français. Alors, évidemment, est-ce que c'est bien d'être constamment au travail ou ça, c'est pas ça. Je laisse le choix aux auditeurs de répondre par eux-mêmes à cette question-là. Mais dans un contexte de formation, l'éducation, en tout cas au MIT, était c'est très important, la formation, c'est très important. Les étudiants payent très cher leurs études et ils mettent la barre très très haut. Je pense que ça crée une émulation et une émulation qui est extrêmement forte et j'ai trouvé pour ma part extrêmement positive. Maintenant, j'ai pu m'épanouir de plein d'autres façons aussi aux États-Unis et j'ai pu aussi vivre en dehors du MIT. Mais en tout cas, ça crée un environnement extrêmement positif pour le, je trouvais, pour le travail. Des fois un petit peu stressant, bien sûr. Mais j'étais dans un environnement absolument formidable. Maintenant, en Suisse, c'était une autre expérience, avec une autre culture que j'ai trouvée également très bien. Là, j'ai eu la chance, là, en Suisse, de travailler avec l'équipe de Alfio Quarteroni, et c'était aussi extrêmement intéressant, avec une culture très différente. Et des résultats tout aussi puissants et intéressants du point de vue de la recherche. Un autre environnement, plus proche de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut trouver en France. Là, la différence peut-être, c'est la similitude entre la Suisse et le MIT, c'est que ce sont des petites équipes autour d'un prof. En France, ça ne marche pas forcément comme ça, en tout cas dans les universités. Mais là, pour le coup, dans le cadre de la plateforme que j'ai créée avec Semosis, mais on fonctionne un petit peu de ce point de vue-là. Avec on essaye de créer un environnement autour de soi.
D'accord. C'est vrai que entre l'Europe et les États-Unis, je pense qu'il y a vraiment une différence en termes de mentalité, même de manière de voir le travail. Donc après, même si je ne suis jamais allée, c'est vrai que ça a l'air quand même assez différent. En quoi la maîtrise des langues étrangères, et plus particulièrement de l'anglais, est-elle utile en mathématiques ?
Ah ben, vous avez tous les articles en anglais. C'est maintenant, je crois, assez rare de publier des articles de recherche en français. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir des livres qui sont effectivement publiés en français, mais l'essentiel de la recherche, la vaste, grande, vaste majorité, est publié en anglais. Là, clairement, l'anglais a gagné la bataille de la langue. Évidemment, les langages de programmation sont aussi liés quand même très fortement à l'anglais. Et donc, tout ce qui est autour de l'informatique, des outils informatiques, sont d'abord, de prime abord, en anglais. Donc, l'anglais est absolument primordial. Maintenant, dans le cadre des collaborations avec des collègues, alors moi j'ai des collègues en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, à différents endroits du monde, être capable de parler un petit peu de différentes langues, de pouvoir échanger dans d'autres langues que l'anglais, c'est également apprécié. Mais d'un point de vue professionnel, clairement, l'anglais est indispensable. Et j'espère que c'est clair pour les étudiants également du master CSMI.
C'est vrai que vous avez travaillé à l'étranger, mais vous aviez également donné des cours. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre expérience d'enseignant à l'étranger ?
Alors, je dirais la grosse différence, et de loin, c'est que les étudiants français, et je me mets dedans évidemment quand j'étais étudiant, hein, donc je me mets pas à part, j'avais tendance à aussi à être comme ça, j'étais comme ça, on n'ose pas poser les questions en France. Et je trouve ça absolument dramatique. Et pour ça, mon expérience aux États-Unis et en Suisse a radicalement changé ma perception de ce point de vue-là. Radicalement. Je crois qu'il est absolument impératif, justement, d'être capable de formuler des questions. Déjà, rien que le fait de pouvoir formuler une question, ça indique un processus intellectuel. D'être capable de l'expliciter, c'est quelque chose d'important. Donc, on a fait déjà une partie du travail. En tant qu'ingénieur, on doit être capable de se poser des questions et les bonnes questions. Quelle est la question qui est posée ? Après, évidemment, on espère pouvoir trouver une réponse, mais c'est poser les questions. Je crois le rappeler en cours régulièrement. Alors, je sais pas. Ma réussite est plutôt mitigée. Alors, je ne sais pas si je fais peur ou si je suis inquiétant. Peut-être que c'est le fait de gérer la formation ou. En tout cas, j'espère que il y a certains étudiants qui décident de passer le pas. Et là, j'en suis ravi. Et généralement, je vois des déclics chez ces étudiants-là. Donc, j'ai fait cette expérience de voir des étudiants qui, à un moment, ont compris qu'en posant les questions, en étant capables de les formuler, en allant au-delà de la peur de poser la question « je ne sais pas », de dire « je ne sais pas » au prof, eh bien, ça a eu un impact. Et là, aux États-Unis ou en Suisse, là, il n'y avait pas ces barrières-là. Ah, aux États-Unis, mais ça fuse. J'avais des questions, mais constamment. En Suisse également. Et donc, moi, dans les cours, en tout cas dans mes cours, ce que j'essaye de faire, c'est, je répète régulièrement, mais posez-moi des questions. Alors, poser la question, cette question-là, en fait, ça marche pas très très bien. En fait, il faut revenir régulièrement, travailler les étudiants un petit peu pour leur donner confiance et puis éventuellement leur essayer de faire en sorte que la... Alors, je ne sais pas si c'est la peur ou quoi, ou probablement je ne le saurai jamais, et puis ça dépendra des étudiants, mais en tout cas, qu'ils arrivent à poser les questions. Et j'ai vu des transformations comme ça, et c'était absolument génial. Alors, ce n'est pas que l'étudiant devient forcément un cador par la suite, mais d'un coup, il a pu franchir des étapes. Grâce à ça, il y a des choses qui sont devenues claires pour lui et qui étaient bloquées auparavant. Et des fois, il ne manque pas grand-chose.
C'est vrai qu'en France, je pense que c'est aussi peut-être notre éducation. À l'école, par exemple, les gens ont peut-être aussi peur de poser la mauvaise question ou la question bête. Et du coup, je dirais que les élèves, des fois, ont un peu peur de poser des questions pour ces raisons. Et c'est peut-être un peu ça qui explique les différences. Et est-ce que vous avez envisagé de rester à l'étranger ?
Oui, même d'aller travailler à l'étranger. Là, j'ai obtenu un poste en France, mais j'aurais pu rester en Suisse, j'aurais pu avoir des opportunités également à l'étranger, dans le monde du privé. J'en ai eu à différentes reprises. Voilà, maintenant, moi, je suis très heureux du travail que j'ai. J'ai beaucoup de chance. Je suis très content et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de gens très intéressants. Pour revenir sur le point peut-être précédent, effectivement, d'un point de vue pédagogique, il me semble qu'il est absolument nécessaire, et ceci dès le plus jeune âge, d'engager les enfants, les élèves, les étudiants, à poser des questions, à se poser des questions, à critiquer. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les choses sont comme ça ? Il me semble que c'est absolument nécessaire. On peut pas faire des cours magistraux. Pour moi, les cours magistraux, l'intérêt peut être probablement... Enfin, il y a des gens qui font ça extrêmement bien. Ça peut être extrêmement intéressant. Mais je pense que c'est éventuellement à un certain niveau. Mais pour l'apprentissage, je ne suis pas certain que ce soit la chose à faire. Et pour le coup, alors là, je ne fais pas forcément ça dans mes cours, mais c'est quelque chose que je voudrais faire, c'est de faire ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. Vous connaissez la pédagogie inversée ? Ou les cours inversés ? Donc en fait, les cours, la partie cours, bah, vous faites des vidéos et puis les étudiants regardent la vidéo chez eux. Donc en fait, le cours, ils le font chez eux, à distance. Et dans la salle de cours, il n'y a pas de cours magistral. Ce sont des discussions, faire des exercices, justement poser des questions, et travailler sur des projets. Et ça me paraît être quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc il y a un travail qui est... C'est pour ça qu'on parle cours inversé. Donc le travail, il est plutôt fait à la maison pour regarder les vidéos, prendre le temps de comprendre ce qui se passe avec les vidéos. Alors l'avantage, c'est qu'on peut la rejouer, la vidéo. Et on profite de l'enseignant, du temps de l'enseignant en cours, pour justement poser les questions, échanger, bien comprendre ce qui se passe et oser poser les questions qu'on n'osait pas poser dans le cours magistral. Et c'est une différence de culture absolument fondamentale, mais à mon avis, pour moi, c'est le futur de l'enseignement. Pour moi, c'est le futur de l'enseignement. Il faut qu'on change là. Enfin, clairement, le cours magistral, ce n'est pas quelque chose qui fait du sens maintenant. Vu la complexité de ce qu'on a à apprendre de nos jours, en particulier en mathématiques, il me semble qu'il y a des besoins, en tout cas, de faire progresser la façon dont on fait les enseignements. Et pour le coup, l'expérience internationale est extrêmement intéressante.
D'accord, c'est vrai que dans mon ancien lycée, justement, ils avaient essayé de faire une classe qui suivait tous les cours en classe inversée. Et les élèves n'avaient pas trop aimé, en fait. Ils n'avaient pas trop accroché au système, peut-être aussi parce qu'ils avaient l'habitude de l'ancien système où on faisait le cours en classe et les exercices à la maison. Ils avaient eu du mal, justement, à s'adapter à ce nouveau système. Et au final, ils avaient abandonné l'idée parce que les élèves n'avaient pas trop apprécié, en fait, au final. Alors, pour finir, j'aimerais bien que vous partagiez quelques conseils à nos auditeurs. Déjà, est-ce que vous avez un conseil particulier que vous aimeriez donner à nos auditeurs ?
Moi, je dirais, par les temps qui courent... deux choses. La communication, s'appuyer sur une bonne communication, essayer de bien communiquer, d'être sûr que ce qu'on veut dire est bien perçu, est bien compris par ce qu'on veut, voilà, nos pensées, nos réflexions sont perçues correctement, sont bien expliquées à la personne en face. Donc la communication joue un rôle absolument crucial à tellement de niveaux. Donc ça, il faut effectivement faire attention à ça. Et puis, autre point, et je crois que c'est, on le voit malheureusement dans ce qui nous arrive actuellement avec cette histoire de Covid, c'est il est impératif de s'appuyer sur la raison. S'appuyer sur la raison, sur des raisonnements logiques, bien faits, sur la science évidemment, en sachant que la science, la connaissance, elle est toujours, peut être imparfaite. Donc les garanties, des fois, ne sont pas forcément totales, mais en tout cas, on essaye de raisonner correctement. Et la raison est un outil, est quelque chose d'absolument fondamental, et il ne faut pas s'en départir. Et les mathématiques, de ce point de vue-là, jouent un rôle important.
D'accord, maintenant je vais vous poser la question du podcast. Quel est votre premier souvenir mathématique ?
Le souvenir, c'était au lycée. J'ai eu la chance d'avoir pendant 2 ans un prof de maths qui était rigolo et passionné par ce qu'il faisait. Et moi, ce côté passion, ça a fait que j'ai bien travaillé les maths, en fait. Je bossais les maths, je m'en sortais très bien à l'école. Sans plus faire d'efforts que ça. Et lui, il m'a apporté une autre vision des maths avec une façon de voir les choses où j'ai réalisé un certain nombre de choses à ce moment-là. Donc on pourrait presque dire que c'était la première rencontre, avant même celle où j'ai changé d'orientation. On peut dire que c'est la première rencontre où c'est quelqu'un qui a fait que je faisais des exercices juste comme ça parce que ça m'intéressait. C'est pas parce qu'il les avait donnés, je faisais juste des maths comme ça. Et je trouvais ça super. Et donc il m'a fait percevoir tout un tas de les mathématiques, en tout cas sous un autre angle. Et ça a commencé à devenir la passion. Voilà. Donc je dirais que c'est le premier souvenir, en tout cas positif, du point de vue des mathématiques. Je ne peux pas dire que les souvenirs précédents soient marqués particulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme, pour cette interview.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Christophe Prudhomme vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner pour soutenir le podcast, cela fait toute la différence. À très vite sur Parcours Mathématiques.